Bienvenue sur l'antenne commune de France 24 et RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Rivière. Je vous présente nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Véronique Régolet, bonsoir. Vous êtes chef du service politique de RFI. Frédéric Dumas, bonsoir. Vous êtes candidate La République En Marche dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. À côté de vous, Djordje Kuzmanović. L'ai-je bien prononcé?
Très bien.
Vous êtes candidat battu de la France Insoumise dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais. Porte-parole défense et internationale de Jean-Luc Mélenchon et Florence Berthoux. Donc vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement, conseillère de Paris, conseillère régionale d'Île-de-France. Frédéric, peut-être, bonsoir, pardonnez-moi, on va regarder...
Oui, jetez un œil aux résultats.
Aux résultats qui s'affinent tout au long de la soirée.
Oui, et qui sont pas tout à fait ceux qu'on attendait, enfin on va y revenir dans un instant. Nous avons donc...
La République En Marche.
Voilà, La République En Marche, il s'agit donc de projections en nombre de sièges, avec 361 sièges. L'image
petit problème technique,
a disparu,
si on peut,
donc
si
il
on
est
peut,
difficile
si
de commenter
avoir,
des chiffres
voilà,
que nous
si
n'avons pas sous les yeux.
Cette
voilà, oui, mais enfin, comme
graphique.
Ça change tout le temps. 126 pour les Républicains, UDI et divers droites. Le Parti Socialiste... 46 sièges, enfin alliés avec les divers gauches, Europe Écologie Les Verts et le Parti Radical de Gauche. Et enfin, la France Insoumise alliée au PCF, 26 sièges.
Et le Front National.
Et le Front National, 8. Et les autres, c'est-à-dire des partis...
Oui, les partis non inscrits, on va
voilà,
dire.
Une dizaine de députés.
Peut-être, Véronique, un mot sur donc cette projection en siège, puisque nous n'avons pas encore les premiers les résultats définitifs. Mais en tout cas, c'est un peu en deçà de ce qui avait été prévu pour La République En Marche. En revanche, la surprise, c'est le score de Marine Le Pen, du Front National, qui n'est pas une victoire, mais qui est quand même un chiffre un peu plus
fort. C'est un peu les vases communicants. Hein. La victoire est là pour Emmanuel Macron, mais comme elle est un petit peu moins large que prévu, même s'il aura de toute façon une majorité absolue, ça laisse un peu d'oxygène aux partis autour. Ça fait que tout le monde aura, par exemple, si les résultats qu'on a à l'heure actuelle se concrétisent, tout le monde aura un groupe à l'Assemblée nationale. La France insoumise, qui doutait, les LR étaient sûrs d'en avoir un. Le PS aussi aura un parti, voilà. Et il n'y a que le Front National qui n'en aura pas, mais qui va peut-être tripler ses troupes, en passant de 2 à 6, voire même jusqu'à 8. Enfin, on verra quels sont les chiffres. Mais ça, c'est que, ben voilà, c'est mathématique. Hein. La victoire, qui est certes énorme, est un peu moins écrasante que prévu, ça a libéré un peu d'espace pour cette opposition. Pour autant, est-ce que cette opposition sera effective à l'Assemblée? Ça va être aussi un peu compliqué pour eux d'exister.
Alors, peut-être avant de faire un premier tour de table avec nos invités, on va rejoindre Valérie Gasse, qui est au siège de La République En Marche, dans le 15e arrondissement. Alors Valérie, quelle est l'ambiance ce soir? Est-ce que finalement, cette victoire un peu moins ample que prévu génère une forme de déception, toute relatif sans doute, mais enfin déception peut-être.
Frédéric, déception certainement pas, mais on est très calme et serein ce soir. Malgré tout, l'enseignement qu'il faut tirer cette soirée électorale, c'est qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La semaine dernière, comme vous le rappeliez, on prévoyait un raz-de-marée pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. Et finalement, ce soir, certes, La République En Marche a une majorité nette, absolue, mais l'opposition s'en sort moins mal que prévu. Et l'abstention a été très forte, encore plus forte que la semaine dernière, ce qui naturellement met un petit bémol ce soir. Alors ici, bien sûr, il n'y a pas eu de triomphalisme, mais une volonté de se projeter dans l'étape d'après, hein, celle de l'action. Une action qu'il va falloir gérer avec un groupe de députés, pour la plupart novices à l'Assemblée, un groupe d'origine très diverse et donc dont on ne sait pas vraiment comment il va se comporter. Alors le prochain défi pour Emmanuel Macron et son Premier ministre, Édouard Philippe, eh bien, ça va être d'organiser cette majorité avec un premier séminaire de travail le week-end prochain à l'Assemblée nationale pour tous ces nouveaux députés de La République En Marche. Et puis, dès le mois de juillet, un congrès pour changer les statuts du parti de La République En Marche.
Merci Valérie. Frédéric Dumas pour La République En Marche. Est-ce que finalement, cette campagne de deuxième tour sur le thème « Surtout pas de majorité trop écrasante pour Emmanuel Macron », est-ce qu'elle n'a pas, dans une certaine mesure, porté ses fruits ?
Oui, certainement. En fait, c'est vrai qu'il y a quelques temps encore, pendant les présidentielles, on nous disait qu'il ne fallait pas voter pour Emmanuel Macron parce qu'il n'aurait pas de majorité. Donc, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir une majorité quand même qui est claire et cohérente. Maintenant, la démocratie, elle a fonctionné. Voilà. Donc, les autres sont représentés et on va pouvoir construire.
Une large majorité, certes, mais est-ce que Emmanuel Macron sera pour autant tranquille? Il va avoir des obstacles sur sa route. Et le premier obstacle, ça va être évidemment cette réforme du travail. On voit que toutes les forces, peut-être syndicales ou même dans la rue, risquent de se lever. Si la réforme est mal préparée.
Vous avez raison, je ne pense pas qu'on va être tranquille parce que oui. Je pense qu'il y a des difficultés importantes dans le pays et donc on sait qu'on ne sera pas tranquille. Par contre, c'est une majorité suffisante quand même pour être déterminée et pour pouvoir effectivement proposer ce contrat avec la nation et avancer. Voilà, tranquille, non, on sait qu'on ne sera pas tranquille.
C'est une majorité absolue. Hein.
Oui, voilà.
Mmh. Oui, mais.
Mais tranquille, c'est pas le mot qu'on peut utiliser aujourd'hui quand on voit tous les obstacles effectivement à lever.
Florence Berthoux, pour les Républicains, vous diriez que ce soir votre parti a plutôt limité la casse par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
Oui, d'abord au-delà des Républicains, il y a une opposition. Je pense que la majorité introuvable qu'on prévoyait, elle n'est pas introuvable. C'est plutôt sain pour la démocratie, d'ailleurs. Les LR seront le plus important groupe d'opposition. Il va falloir que cette opposition soit constructive. Il y a vraiment aujourd'hui des pierres d'achoppement, en tout cas aujourd'hui, entre ma famille politique et le programme porté par le président de la République. Il y a aussi des points qui peuvent être des points de convergence. Je pense en particulier au programme qui a été avancé, aux éléments de programme sur l'éducation nationale. Ce qu'on voit, c'est que les élus, en tout cas pour le deuxième tour, c'était moins vrai et très injuste pour le premier tour, mais le deuxième tour, les élus qui étaient beaucoup d'élus implantés, qui avaient beaucoup travaillé, ont réussi à sauver leur circonscription. Voilà. Sur Paris, Claude Guesguen est élu, Brigitte Kuster, qui est une excellente maire d'arrondissement. Je crois que mon ami Pierre-Yves Bournazel est également élu. Donc ceux qui ont beaucoup bossé passent la rampe.
Mais
il y a aussi de l'injustice.
Il y a ceux, comme vous dites, qui ont sauvé leur circonscription, mais c'est peut-être pas forcément non plus le sujet primordial quand
bien
je dis. Quand, voilà, c'est aussi la recomposition de ce parti. Le travail doctrinal qui n'a peut-être pas été fait depuis quelques années, parce que dans le fond, vous étiez assis sur une certitude, c'était celle de remporter la présidentielle, quel que soit le candidat. Et bien, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, ce qui vous a peut-être exonéré d'un reboot, on va dire, idéologique. Aujourd'hui, cette recomposition, comment vous l'imaginez, comment vous la voyez? Est-ce que vous la scindez en deux parties, c'est-à-dire celle qui devra s'opposer, d'une partie qui sera incarnée par Laurent Wauquiez, ou celle qui sera incarnée par ceux qui sont constructifs?
Une formation politique, c'est deux choses. C'est un programme, donc il faut quand même qu'on se mette d'accord sur des éléments de programme. Le programme porté par le candidat Fillon n'était pas tout à fait le programme porté par les candidats aux législatives. Bon, certains ont un peu souffert, hein, je pense, de ce manque de cohérence, de lisibilité. Et puis, ce sont des femmes et des hommes. Et il va falloir renouveler. Ça ne va pas se faire sans une forme de douleur. Voilà, on ne va pas échapper à un certain nombre de remises en question. Donc, l'heure est à la fois au bilan, mais il est à la construction.
Oui. Peut-être un mot, Georges Kouzmanovitch. Donc, vous êtes candidat battu de la France insoumise. La France insoumise qui fait un score plutôt, on va dire, honorable. Vous allez pouvoir avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez marcher sur les plates-bandes du Parti socialiste? Est-ce que vous allez leur faire de l'ombre? Qu'est-ce que vous comptez faire, dans le fond, à l'Assemblée? Vous opposez systématiquement, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, contre ce coup d'État social? Ça va être votre job à la rentrée?
Coup d'État social et médiatique. Alors, on voit les projections. Vous parliez de succès, d'un certain succès du Front National. Moi, je constate que nous avons presque quatre fois plus d'élus que le Front National. Nous pouvons faire en autonomie un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui n'était prédit par personne. Donc pour nous, c'est une très grande victoire, vu d'où nous venons et vu la couverture médiatique que nous avons eue, et en particulier les attaques relativement importantes depuis les deux dernières semaines qui ont précédé le premier tour de la présidentielle contre M. Mélenchon.
Mais on est quand même très loin de ce qu'espérait Jean-Luc Mélenchon au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle.
Oui, mais très très loin devant ce qu'on nous promettait il y a encore deux semaines. Je voudrais faire remarquer que ce grand succès qui, pour la République En Marche, d'avoir 361 députés dans cette projection, correspond à un électorat de 15% de la population, puisque le premier tour, c'était 32% pour la République En Marche, avec une abstention de 50%, ça veut dire que 15% ont voté pour cette Assemblée nationale. C'est une légitimité extrêmement faible qui va être un problème pour M. Macron, surtout s'il décide de modifier le Code du travail, donc de faire une case du Code du travail, comme il a promis, par ordonnance, c'est-à-dire en ne se servant même pas de ses députés, puisque par ordonnance...
Oui, mais ça, c'est le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il n'y a pas de majorité pour casser le Code du travail. Mais il n'y a pas non plus de majorité pour s'y opposer, si on suit son raisonnement.
Il y a une très forte abstention, et comme la démocratie ne pourra pas s'exprimer au Parlement, elle s'exprimera dans la rue, surtout s'il y a des modifications. Et enfin, une dernière chose, on a une opposition avec les Républicains et une opposition avec le Parti Socialiste qui est assez étonnante, parce que, si je me souviens bien, le Premier ministre vient des Républicains, le ministre de l'Économie vient des Républicains, le ministre du Budget vient des Républicains, on peut faire une longue liste comme ça, et la moitié, ou une bonne
jusqu'à
moitié...
Jusqu'à maintenant, vous pouvez l'arrêter là, la liste, je crois.
Une bonne moitié des députés républicains, une bonne moitié des députés socialistes, on dit qu'ils pourraient travailler avec M. Macron. Donc c'est une opposition assez intéressante.
On va reprendre ce débat, mais je vous propose tout de suite de rejoindre Anthony Lattier, donc à Marseille, donc dans le sud de la France, au QG de Jean-Luc Mélenchon, justement. Bonsoir Anthony.
Bonsoir à tous.
On a entendu Jean-Luc Mélenchon ce soir répéter en boucle que cette majorité n'avait pas de légitimité.
Oui, en effet, c'est ce qu'il a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure quand il s'est exprimé à la tribune. Jean-Luc Mélenchon, en effet, se pose en opposant numéro un, opposition frontale à ce que veut faire Emmanuel Macron, notamment en matière de réforme du code du travail. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon ici est en passe de réussir son pari personnel. D'abord ici à Marseille, puisqu'il annonce son élection. On n'a toujours pas de chiffres définitifs. En tout cas, il l'emporterait face à Corinne Versigny, la candidate d'En Marche, qui était une novice en politique. Je remercie Marseille de m'avoir dit oui. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, qui réussirait donc son pari à double titre, puisqu'en effet, comme le disait votre intervenant, Jean-Luc Mélenchon pourrait former un groupe à l'Assemblée nationale. Là encore, ce n'est pas confirmé, mais il aurait environ 15 députés. Et puis, dans ce groupe, en tout cas, il y aurait notamment Alexis Corbière, qui est l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon. Il était porte-parole durant sa campagne pour l'élection présidentielle. Il y aura aussi François Ruffin, c'est une surprise. François Ruffin, militant, journaliste, c'est l'auteur, vous savez, de documentaire Merci Patron. Eh bien, il est élu dans la Somme, alors qu'il avait beaucoup, beaucoup de retard sur le candidat En Marche. Il y a aussi de nouvelles têtes qui vont faire leur entrée au Parlement, à l'Assemblée nationale, notamment deux jeunes de 27 ans qui sont élus dans le nord de la France, une aide-soignante également, élue en Meurthe-et-Moselle. Une bonne soirée à noter aussi pour les communistes qui auraient une dizaine de députés.
Merci beaucoup Anthony Lattier. Un mot sur Véronique, on vient de l'apprendre, donc Nathalie Kosciusko-Morizet est battue. Elle avait dit, elle avait eu ce cri de désespoir il y a quelques jours, avant qu'elle se fasse agresser d'ailleurs par un homme qui est maire d'un petit village. Elle avait dit ma voix peut s'éteindre.
Ce qu'il faut remarquer, que c'était une circonscription imperdable pour la droite. Hein. C'est l'ex-circonscription de François Fillon qui lui avait donné en cadeau à NKM. Elle ne pouvait pas perdre. Il s'est trouvé que là, il y a tous les mots. Hein. Tous les mots de la droite aujourd'hui, il y a eu dissidence, elle a eu deux candidats de droite, et puis il y a le rouleau compresseur, bien sûr, de La République En Marche, et donc elle perd, et de fait, comme elle n'a plus de mandat, oui, sa voix, pour un certain temps, va sans doute s'éteindre. Voilà.
Elle reste conseillère de Paris, mais
Florence Berthoux, c'est le destin, en tout cas pour le moment, des Républicains, de perdre tout, y compris l'imperdable.
Non, d'abord, la grande leçon de ces élections successives, présidentielles et législatives, c'est que dans une élection, jamais n'est rien gagné ou n'est gagné ou n'est perdu d'avance. Alors c'est exactement la preuve par neuf de ce qui s'est passé dans mon arrondissement, puisque mon arrondissement représente à peu près 50% de la population de cette circonscription. Ça a été effectivement une élection, une bataille extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Il y a eu des divisions. Il y a peut-être aussi une arrivée de Nathalie qui a été assez tardive et avec l'idée véhiculée par les médias que la circonscription était une forme de cadeau. Il n'y a pas de cadeau en politique. Il y a des batailles. Mais je voudrais revenir juste une minute, si vous permettez, sur ce que j'ai entendu, parce que je suis très choquée d'entendre depuis tous les débuts de cette soirée électorale les candidats du Front National et de France Insoumise qui ne cessent de dire, alors qu'ils viennent d'être soit élus, soit battus au suffrage universel, que l'opposition, ça va se passer dans la rue. On ne peut pas à la fois aller devant les électeurs. Et donc les électeurs sont en démocratie tout puissants.
C'est juste parce que M. Macron nous dit qu'il leur...
Et l'élection est à peine faite que la première conséquence qu'on tire du suffrage universel, c'est de s'asseoir dessus en disant « bah écoutez, la voix de l'opposition, on ne va pas la faire entendre ». À l'Assemblée, dans les élections représentatives, mais on va la faire entendre dans la rue.
Mais la droite l'a fait aussi.
Moi, je pense
au moment du mariage pour tous, par exemple, la droite a massivement défilé dans
les rues. Avant, il faut dire que l'opposition, on va se battre dans l'hémicycle.
Alors, madame, c'est une question de méthode. Ce n'est même pas le
résultat. Pardonnez-moi de vous interrompre pour donner quand même des résultats, parce que c'est une soirée électorale. Donc, on l'a dit, Nathalie Kosciusko-Morizet donc concède. Eh bien, sa défaite à Paris. Jérôme Chartier, l'ex-bras droit de François Fillon, lui aussi est battu dans le Val d'Oise. Najat Vallaud-Belkacem est battu également dans la circonscription lyonnaise et elle compte participer à la reconstruction de la gauche. Et même chose pour l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui, elle aussi, est battue. Voilà, Frédéric, je vous laisse la parole.
Alors, Frédéric Dumas, attendez, parce que Madame Dumas peut parler. Frédéric Dumas, est-ce que cette majorité, donc un peu moins large que ce qui avait été envisagé, est-ce que finalement ça ne va pas être, dans une certaine mesure, plus confortable ?
Oui, moi je pense que c'est mieux d'avoir une majorité qui est quand même...
qui est solide.
Qui est solide, ouais. Qui est cohérente et avec d'autres partis qui peuvent s'exprimer sans qu'effectivement à chaque fois on nous dise qu'on n'est pas légitime ou qu'on est hégémonique. Oui. Donc ça, je trouve, c'est bien. Moi, je trouve quand même que ça souligne trois choses. D'abord, c'est vrai que les Français ont quand même voté pour le renouvellement. Après, on peut déplorer effectivement pour certains une forme d'injustice, mais c'est quand même le renouvellement. Et c'est aussi la cohérence, parce que moi, je pense que le Parti Socialiste ou les Républicains ont perdu du fait de cette volonté de parti unique où, comme on dit, il fallait réunir de Nathalie Kosciusko-Morizet à sens commun. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il vaut mieux un projet cohérent où on demande aux autres sensibilités de venir nous rejoindre pour construire. Je pense que c'est ça qui donne une majorité plus importante.
Georges Kuzmanovic.
Moi, de Robert Rue à la main, c'est aussi un peu une majorité assez étonnante. Mais madame, je ne parlais pas spécialement des Républicains. Quand j'ai dit qu'il n'y aurait pas de débat de démocratie au Parlement, ce n'est pas du fait des Républicains ou des députés de la France Insoumise ou des députés socialistes, c'est du fait de ce qu'a promis M. Macron, qui avait gouverné par ordonnance. Or, comme vous le savez, l'ordonnance implique que la loi est écrite hors de l'Assemblée nationale, présentée aux députés, qui votent s'ils sont d'accord pour l'ordonnance. Or, comme ils sont au moins 361, ils obéiront, ils le feront. Il n'y aura pas de débat. C'est encore pire que le 49-3. Et la loi sera représentée au final pour être validé par ordonnance. Il n'y aura pas de débat.
Il l'avait annoncé, ça.
Mais c'est pour ça que je dis, s'il n'y a pas de débat...
Et les électeurs ne se sont pas mobilisés...
Oui, mais bien expliquer pourquoi.
J'explique. S'il n'y a même pas de débat à l'Assemblée nationale, le débat se fera à l'extérieur, surtout si ça a atteint le travail, la loi sur le travail qui touche des dizaines de millions de Français.
Véronique Rigolet, le Parti Socialiste donc aura un groupe, la France Insoumise
oui, c'est la
aussi.
Divine surprise pour eux ce soir.
Voilà.
Quelques jours, ils n'en avaient plus.
La divine surprise n'empêche qu'il y en a un qui va faire de l'ombre à l'autre. Lequel ?
sur le job de vouloir s'opposer.
France Insoumise
et le Parti Socialiste.
Je sais pas qui va faire de l'ombre à l'autre. Le groupe socialiste, en tout cas, à l'Assemblée, sera supérieur au groupe France Insoumise. Hors Parti communiste, car on estime que, bon, si vous pouvez faire un groupe tout seul, vous allez le faire. Avec le leader de la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, on aura un discours tonitruant, j'imagine, il ne va pas changer dans les prochains jours, de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, et ça sera pour lui... c'est la première fois qu'il met les pieds à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon, c'est la première fois qu'il sera député. Pour lui, c'est une énorme tribune qui s'ouvre. Après, son groupe sera peut-être réduit, s'il en a un, à 15 députés. C'est pas énorme non plus. Par exemple, pour déposer une motion de censure, c'est le nombre qui compte. Hein. Il faut être 59 pour demander, en appeler au Conseil constitutionnel pour faire valider ou non une loi. Il faut être 60. Ça, c'est des pouvoirs que n'aura pas le groupe de la France insoumise. En revanche, comme pour Marine Le Pen, d'ailleurs, qui n'aura pas de groupe pour faire entendre leur voix, on sent qu'il va y avoir une opposition radicale de la France insoumise et tonitruante à la méthode Mélenchon. Hein, le bruit et la fureur, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Avec un programme et structuré, cohérent.
Voilà. Et dans ce qu'on a ébrouillé fureur aussi, c'est voilà. Et dans ce qu'on a entendu ce soir de Marine Le Pen, on sent que voilà, l'Assemblée nationale, elle aussi, c'est sa première entrée à l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. On sent qu'elle aussi fera entendre sa voix. Après, jusqu'où ira cette opposition ? Dans les faits, pas beaucoup plus loin.
Alors, il y aura une opposition parce qu'elle sera cohérente. Contrairement à tout le reste. Je vous rappelle, Mme Kosciusko-Morizet a souffert aussi du fait, encore une fois, que des ministres actuels du gouvernement Macron viennent des Républicains. Je pense que ça leur a nui. De la même manière que beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter socialiste parce qu'ils n'ont pas compris pour qui voter, puisque El Khomri et d'autres anciens députés ministres socialistes soutenaient M. Macron. Ça crée une confusion colossale. Vous êtes bien d'accord ?
Il faut qu'on rejoigne Julien Chavanne, qui est rue de Girard à Paris, dans le 15e, au siège des Républicains. Julien, alors est-ce que c'est l'ambiance ce soir, c'est cette idée qu'on a finalement un peu limité la casse ?
Oui, c'est ça. La droite, ce soir, est soulagée. Elle reste d'abord la première force d'opposition à l'Assemblée. Ça, c'était acquis. Ce qui était moins, c'était de dépasser la barre des 100 députés. Et ça, c'est fait. Et je peux vous dire qu'on a entendu quasiment un ouf de soulagement résonner dans le vide de ce siège ce soir. Une défaite moins catastrophique qu'annoncée, mais une défaite quand même. Les Républicains et les centristes perdent la moitié des sièges qu'ils avaient dans le précédent hémicycle. Alors ce soir, c'est aussi l'avenir de la droite qui se joue. La famille est menacée de division entre ce que l'on appelle les Macron compatibles et la droite d'opposition. L'heure des règlements de compte a d'ailleurs déjà commencé. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, appelle à ouvrir d'ores et déjà, sans plus attendre, le débat sur la ligne politique du parti. Ce soir, chaque camp compte ses voix, compte les élus, compte ses forces, en vue du rapport de force qui va s'ouvrir cette semaine. Du côté de la droite d'opposition, les sarkozystes estiment que la trentaine d'élus constructifs va se retrouver isolé dans un groupe plus important que prévu. Les jours prochains seront déterminants. La bataille entre les deux sensibilités devrait éclater mercredi. Il y aura l'élection du président du groupe parlementaire à l'Assemblée avant un bureau politique mercredi après-midi qui s'annonce épique.
Merci Julien Chavanne, merci Roselyne.
Oui, alors un mot Véronique sur cette reconstruction idéologique que doivent faire les Républicains. D'abord, et d'une, un travail doctrinal qui n'a pas été fait, comme je le disais tout à l'heure, à madame des Républicains. Et puis...
Florence Berthoud.
Et puis, voilà, tout à fait, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom. Et puis, un vrai leadership. Qui va prendre le leadership ?
Il n'y a plus de leader à droite. Il n'y a plus de leader à droite depuis la chute de Fillon, voilà, et après celle de Nicolas Sarkozy. Ça, le problème de leadership, voilà, il est prégnant. On sait, Baroin l'a pas dit ce soir, contrairement à Cambadélis, qui a annoncé qu'il démissionnait et qu'il laissait la reconstruction à d'autres. Baroin, dans son idée, c'est que lui aussi ne sera pas le chef de file de la reconstruction de son parti. Il va la laisser, il y aura un congrès en novembre, mais d'ici là, de fait, la droite comme la gauche, les deux partis de gouvernement défaits par la vague Macron vont devoir se reconstruire avec exactement le même problème. Ils sont partagés les uns comme les autres entre ceux qui acceptent la main tendue par Emmanuel Macron et ceux qui veulent une opposition frontale. Alors, chez les LR, qu'est-ce que ça veut dire ? D'un côté, il y a la ligne, on va dire... Vauquier, Ciotti, qui sont pour une opposition frontale au gouvernement Macron. Et puis il y a une autre ligne, généralement des anciens jupéistes, des lemairistes, qui eux disent, voilà, on peut pas être dans une opposition sur tous les sujets, acceptons cette main tendue. Alors ce qui est en train de se jouer, ce qu'expliquait Julien, c'est que bon, il faut quand même un peu se compter. Ce soir, il y aurait une trentaine d'élus dans les élus ce soir, hein, une trentaine qui seraient
chez les élus républicains.
Des reconstructifs. Alors est-ce qu'ils vont prendre le risque de faire scission du reste du groupe républicain? Voilà, la question sera rapidement tranchée, puisqu'il y a cette réunion de groupe dès mercredi et bureau politique mercredi après-midi. D'autant, on verra s'il y a scission ou pas entre ces deux droites a priori irréconciliables, mais peut-être ils vont y réfléchir à deux fois. C'est peut-être mieux de rester dans la famille, alors qu'avec sa majorité absolue, le gouvernement n'a plus besoin de force d'appoint à l'Assemblée nationale.
Véronique, est-ce qu'on peut revoir pendant
ça peut changer la donne.
Pendant la campagne électorale, le Deus ex machina, Nicolas Sarkozy ressortir de la boîte imposer.
Non. Nicolas Sarkozy a dit que c'était fini. Voilà.
Ah oui, mais enfin,
alors
bon,
après c'est Nicolas Sarkozy.
Fois, donc pourquoi pas trois.
Voilà, qui tente de tirer des ficelles, qui reste le conseiller de sa propre famille et qui
vous enregistre ce soir.
Voilà, qui sera soucieux de l'avenir de sa famille politique. Oui. Nécessairement, Nicolas Sarkozy sera toujours là. Mais après, il ne va pas revenir sur le premier plan.
Dans quelle ordre faut-il prendre les choses aujourd'hui, Florent Berthoud? Il faut trouver un leader.
La question.
Ou d'abord les idées et ensuite
majeure,
on verra qui est le leader.
C'est quand même celle de la ligne programmatique. Et vous dites, il y a ceux qui se disent, est-ce qu'on va travailler avec Macron, sous-entendu, est-ce qu'on va voter la confiance, les autres. Et puis, il y a aussi tout un tas d'élus de terrain, comme moi, qui veulent que l'on définisse une ligne programmatique. Si on repart dans qui prend le parti, est-ce que c'est Wauquiez, est-ce que c'est tel ou tel, de ce point de vue-là, Valérie Pécresse a raison. Il faut définir la ligne programmatique. Donc définissons la ligne programmatique, les fondamentaux. Moi, je note une chose, c'est que les fondamentaux, ils ont bougé et ça ne nous a pas servi entre l'élection présidentielle, où il y avait un programme qui était très carré, et puis après, le programme porté par nos candidats aux législatives. Et ce n'était plus tout à fait le même. Bon.
Je vous propose d'aller au QG de Marine Le Pen, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, avec Karim Hakiki, donc pour le Front National. Marine Le Pen qui a été élue ce soir, Karim, avec, on le voit aussi, la femme, l'épouse de Robert Ménard, qui a été élue ce soir. Donc, une bonne... huit personnes pour l'instant, huit sièges à l'Assemblée nationale. Alors, pas assez pour faire un groupe. Alors, certains, comme Gilbert Collard, disent que c'est pas vraiment une victoire, tout ça était vraiment petit bras. Et d'autres, comme Marine Le Pen, qui considèrent que, eh bien, c'est Broadway.
Oui, vous avez raison, Roselyne. Marine Le Pen s'est félicitée de ce résultat. Je la cite lors de son discours. Je remercie les électeurs, d'autant que l'abstention a atteint un niveau record. Elle a également mis en cause le mode de scrutin qui l'a empêché, en tout cas, d'avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Ça a été une victoire. Elle a été présentée une victoire. Je me suis entretenu avec Steve Briouat, l'élu local des Nimbomont, ou encore avec un nouveau député de Lens, José Evrard, qui me dit évidemment c'est une victoire. Nous avons plus que doublé le nombre de députés. Nous serons 8, peu importe si nous n'avons pas un groupe, mais le symbole est très fort. Ici à Hénin-Beaumont, on est en train de démonter derrière moi le rideau et les installations, mais les militants étaient ravis. Ils ont entonné l'international. Et puis quand on leur demande si c'est finalement une victoire nationale, là le discours est un peu plus nuancé. On nous dit que même si Marine Le Pen a été élue ici, bien élue, le reste de la France pose plus de problèmes. Marine Le Pen a également évoqué, donné les résultats de son compagnon, lui à Lyon, dans les Pyrénées-Orientales. En tout cas, ici, c'est ce qu'on veut retenir, cette victoire de Marine Le Pen, une victoire très personnelle, une sorte ici, si j'ose dire, de culte de la personnalité. Et puis, deuxièmement, on met de côté les dissensions à l'intérieur du Front National. Marine Le Pen devra faire face à un bureau politique dès mardi prochain où son père veut venir. Elle ne le souhaite pas. Elle devra également faire face, en tout cas clarifier sa ligne idéologique autour de l'Union européenne et de la sortie de l'euro. Mais ce soir, ici à Hénin-Beaumont, on retient surtout la victoire de Marine Le Pen et celle du Front National avec 8 députés qui rentreront au Palais Bourbon.
Oui, Marine Le Pen qui est libérée en quelque sorte de Florian Philippot, hein, qui n'a pas été réélu, qui n'a pas été élu plutôt ce soir en Moselle. Je vous propose de prendre la direction du Parti socialiste vers Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Donc on a entendu ce soir le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui donne sa démission en quelque sorte, qui part et qui avait été tout au long de cette campagne un peu entre le marteau et l'enclume, à la fois en étant, on le sait, plutôt du côté des réformistes, ancien strauss-kahnien, proche de François Hollande, et à la fois obligé de trouver un équilibre et de soutenir le candidat Benoît Hamon à la présidentielle. Mais aujourd'hui, cet équilibre ne tient plus et le Parti socialiste ne va pas faire l'économie non plus d'un réassort idéologique.
Alors c'était un équilibre de façade et en réalité Jean-Christophe Cambadélis n'a jamais réussi à aplanir des divergences profondes qui datent déjà de très nombreuses années. C'est vrai que le Parti Socialiste a besoin aujourd'hui d'éclaircir un certain nombre de points, tout simplement sa ligne, son idéologie. Et lorsqu'on discute avec un certain nombre de socialistes qui étaient là ce soir, ils considèrent qu'il faut tout remettre à plat, repartir de zéro et pour cela inviter les militants à mettre la main à la pâte. Alors c'est vrai que ça semble difficile lorsqu'on voit qu'au sein du Parti Socialiste, on a un spectre qui va de Manuel Valls à Benoît Hamon. L'un tendrait plutôt vers En Marche, tandis que l'autre ferait de l'œil à la France insoumise. Donc les choses seront longues et compliquées. Est-ce que c'est une nouvelle génération qui va s'atteler à remettre le Parti Socialiste à flot? Certains veulent le croire. Najat Vallaud-Belkacem, qui a perdu ce soir, a déjà exprimé son souhait de continuer la bataille au sein du Parti Socialiste. Et Jean-Christophe Cambadélis, qui appartient à une toute autre génération, lui aussi a expliqué que s'il se retirait du poste de premier secrétaire, il allait continuer à œuvrer au sein du Parti Socialiste pour tenter de refonder, de reconstruire. C'est les mots qui reviennent régulièrement, même si on a le sentiment que ça risque d'être très compliqué. Ça a été aussi compliqué pour ceux qui n'avaient pas de candidat en marche face à eux. On a vu que Marisol Touraine a été éliminée. Elle avait pourtant gommé toutes les traces qui la liaient au Parti Socialiste, même sur ses tracts. On a vu aussi que Manuel Valls semble avoir été réélu. C'est lui qui l'annonce ce soir avec 50,3%, donc un chiffre très serré. On s'aperçoit donc que ceux qui avaient une ligne plutôt proche de Manuel Valls ne sont pas forcément mieux sortis. En tout cas, ce soir, le Parti Socialiste est en morceaux. Et à partir de demain, et surtout de mardi, puisqu'il y a un bureau politique, il va falloir tout reconstruire. Il y aura un Conseil national également samedi prochain.
Merci Karim. On va interroger bien sûr Gérard Filoche sur l'avenir du Parti Socialiste. Mais Frédéric, avant, je vous propose de revoir peut-être les chiffres qui sont en train de s'affiner tout au long de la soirée. Si on pouvait les revoir, donc les projections en siège, avec donc La République En Marche, 355 sièges. Les Républicains avec 125 sièges. Le Front National, 8.
La France Insoumise,
la France
30.
Insoumise, 30. Voilà, et le Front National, 8.
Oui, alors on va peut-être présenter les invités qui nous ont rejoints. Jean-Alain Lacapelle, secrétaire national du Front National aux fédérations et à l'implantation et vice-président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France. Et Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti Socialiste et est resté avec nous. Frédéric Dumas pour La République En Marche, conseiller régional d'Île-de-France, candidat de La République En Marche. On ne vous a pas demandé d'ailleurs votre résultat.
Je ne l'avais pas totalement en arrivant, mais je crois que c'est autour des 60. Bon. Mais voilà, je l'avais pas.
Gérard Filoche, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? On vous a vu très en colère entre les deux tours. Cela dit, c'est une deuxième nature chez vous, ça, un peu l'emportement, pas la colère, mais l'emportement. Mais ce soir, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Mais il y avait de quoi, parce que ce qui vient d'arriver à la gauche est un désastre grave. Alors, vous savez, quand même, il va y avoir combien, 70 députés de gauche au total? Ça sera un petit peu plus qu'en 93. Parce qu'il n'y en avait que 52 en 93.
Ah non, vous dire si vous
plus PS,
oui, parce que vous comptez.
Ah mais moi je parle toujours
la les gauche.
Oui, mais ça veut dire du mal à séparer les groupes, vous voyez.
Oui, ça veut dire que vous pourriez faire certains pourraient rejoindre le groupe de la France Insoumise.
C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est qu'il ne peut y avoir pour nous socialistes une condition à être dans le même groupe, c'est de refuser de voter la confiance à Macron. C'est-à-dire s'il y a des gens ex-socialistes ou socialistes.
Bah, vous aurez Manuel Valls puisqu'il était.
Il ne sera pas dans le groupe.
Oui.
Vous voyez ce que je vous dis.
Et le fond,
il est impossible d'avoir un groupe parlementaire avec des membres dedans qui votent la confiance à Macron parce que nous serons dans l'opposition.
Mais vous décidez s'asseoir, mais...
Non, je ne dis pas s'asseoir, je sors du Bureau national du Parti socialiste. Oui. C'est ce qui a été dit par Jean-Christophe Cambadélis lui-même.
Et Jean-Christophe Cambadélis a encore autorité ce soir pour annoncer ce genre de choses. Non, mais je vous pose la question, puisque lui-même ce soir.
C'est pas une question de pas démocratique. C'est une discussion qui dure depuis des semaines. Et on peut pas.
C'est une décision qui vous arrange.
Oui, bien sûr. On peut pas être socialiste et pour Macron. Macron en économie sociale, c'est l'extrême droite. C'est la manne Thatcher. C'est celui qui va non seulement casser le code du travail, faciliter les licenciements, permettre qu'il y ait des plans sociaux à partir de 30 au lieu de 10, faire qu'il y ait un changement pour les représentations du personnel, pour le droit syndical, qu'il y ait de toute façon un référendum de l'entreprise à la main du patron, qu'il y ait une barémisation qui permette de protéger les patrons délinquants des conséquences de leurs actes quand ils licencient de façon abusive. Donc nous avons en face de nous un leader de combat de la finance en France qui vient d'avoir une majorité au Parlement et qui va s'attaquer à des millions de salariés dans les semaines et mois qui viennent. Il va même faire plus parce qu'il va s'attaquer au salaire brut des gens. Les gens vont le voir sur leur feuille. Mais je parle politique parce que quel est le sens, madame, de dire qu'il ne faut pas voter la confiance à Macron. C'est pas pour une décision administrative ou c'est pas pour une décision personnelle. C'est une question de fond. Nous avons aujourd'hui amené un combat pour reconstruire la gauche et ce combat implique de défaire l'orientation que Macron propose.
Mais
l'orientation qui est par ailleurs très minoritaire. C'est une majorité artificielle à mes yeux. Parce que 11, 14, 16% des gens se prononcent vraiment pour Macron. Par contre, vous avez un phénomène institutionnel en cascade qui fait qu'à partir de 23% le 23 avril, il arrive à une majorité absolue à l'Assemblée. Ça, c'est tous les travers de la Ve République. Mais une fois qu'on met ça de côté, ce qui compte, c'est le combat et la reconstruction et l'unité de la gauche. Je termine.
Oui,
et l'unité de la gauche.
Je vous en prie, mais...
L'unité de la gauche, c'est quoi? C'est aujourd'hui reformuler des revendications, qui soient la hausse des salaires et du SMIC et la baisse des dividendes, qui soit le contrôle sur les licenciements et pas la fin du contrôle sur les licenciements. Donc ça, on va le faire avec le groupe parlementaire et on le fera aussi. J'entendais quelqu'un qui disait dans la rue, on le fera
les deux. L'idée, c'est que ce soit un peu un débat. Donc voilà, merci. Jean-Lain Lacapelle, sur cette critique de ce que dans la bouche de Gérard Filoche, l'ultralibéralisme finalement d'Emmanuel Macron, vous reconnaissez, vous vous retrouvez dans cette accusation?
Non, mais moi ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui, et je pose le problème de la légitimité de l'Assemblée nationale, peu importe qui soutiendra, est-ce que les Républicains, est-ce que les socialistes soutiendront ou pas la politique de Macron?
Non.
Je pense que très rapidement, on va s'apercevoir, mais on l'a déjà vu, qu'il y a un système UMPS qui s'est mis en place, à quelques exceptions près, peut-être qu'il y aura des particularités, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une Assemblée nationale qui est ultra majoritaire, en siège, et qui finalement a été élu sur une base d'un taux d'abstention historiquement bas et faible. Donc ça pose un vrai problème. Pour reprendre une question que vous posiez, moi j'ai un chiffre intéressant, 83% des Français n'ont pas voté pour un candidat en marche au premier tour de l'élection législative. 83% des électeurs inscrits. C'est extrêmement important. Hein. Et ça, vous ressentirez cela très rapidement demain dans l'opposition.
Oui. 61%
des Français, mais je vais y revenir.
Il y avait une estimation Ipsos, 56% de l'électorat Front National s'est abstenu au premier tour. C'est quand même
des ouvriers n'ont pas voté au premier tour. 64% des jeunes de moins de 35 ans n'ont pas voté. 63% des salariés n'ont pas voté. Donc il y a, en effet, il y a eu une démobilisation très forte dans l'électorat populaire, l'électorat jeune, qui sont des électorats assez forts pour le Front National. Pourquoi? Parce qu'on a un mode de scrutin qui ne vous incite pas à aller voter. Quand honnêtement, on vous explique, et on vous rabâche pendant des semaines... Qu'il y aura entre... Parce qu'il y a une institution, une tradition qui fait que de toute façon, on donne une majorité au président de la République qui est élu. Ceci, on le voit depuis déjà plusieurs septennats au quinquennat. Mais en revanche, quand vous rabâchez en effet dans les médias, quand vous entendez que le Front National n'obtiendra que 5 à 10 députés, c'est ce qui avait été longuement dit, parfois même de 0 à 2, c'est ce qui était dit ces derniers jours, alors qu'il a recueilli 21% au premier tour de l'élection présidentielle, 35% au second tour de l'élection présidentielle, 13% au premier tour des législatives. Honnêtement, ça vous incite pas, ça vous aide pas à aller voter, vous dites... ça ne sert à rien, c'est ce qu'on entendait. Moi, je l'ai entendu moi-même sur les marchés, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, nous ne serons pas élus. Donc, il faut réformer le mode de scrutin, parce que si nous avions été en Allemagne ou en Angleterre, nous aurions plus de 70 députés.
Qui est de notre invitée la plus disciplinée, il ne faudrait pas que vous en soyez pénalisée. quand vous entendez cette accusation, ce parallèle fait entre Emmanuel Macron et Margaret Thatcher, qu'est-ce que vous dites que c'est de l'outrance ou
deux choses. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment de la caricature et aussi de la désinformation. Donc, je pense que les Français, en tout cas, ont voté contre cette manière de faire de la politique. C'est très clair. Puisqu'évidemment, quand on parle, par exemple, du salaire brut, quand on propose de supprimer les cotisations sociales et maladie, chômage sur les salaires, évidemment, on améliore
le salaire brut.
On améliore le salaire net.
Ah non, mais, on diminue le salaire brut, c'est le salaire brut qui compte.
Pour tous les gens. Ça sera du pouvoir d'achat en plus, et vous savez
plus
bien.
Mais ça ne donne rien, madame. Si vous perdez sur votre... Votre assurance et votre retraite. Ouais. Allez-y.
Voilà. Et ensuite, ce que je pense sur la non-légitimité due à l'abstention, vous l'avez dit vous-même, il y a eu une abstention des électeurs du Front National et des électeurs de France Insoumise au premier tour. Et je pense que pour le reste de l'abstention, on peut la déplorer, mais on ne sait pas pourquoi elle a eu lieu. Elle peut aussi être une forme d'attente. Et je pense que La République En Marche, effectivement, est nouvelle. Les gens attendent beaucoup. On de l'espoir. Et ce sera à nous d'amener des résultats concrets pour que, dans 5 ans, on ait réduit cette abstention. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, dire ce que veut dire cette abstention.
Je vous propose de rejoindre à Marseille Achren Verdian, au QG de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, Achren. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui n'a cessé de dire que la majorité, ce soir, d'Emmanuel Macron n'avait pas de légitimité et il appelle à un coup d'État social qui est, selon lui, en préparation.
Oui, effectivement, Roselyne, Jean-Luc Mélenchon a eu des mots très durs contre la majorité présidentielle donc, qui s'annonce écrasante hein, à l'Assemblée nationale. Effectivement, il a dit qu'elle manquait, cette majorité présidentielle, totalement de légitimité, notamment, je le cite, hein, pour perpétrer le coup d'État social que représente l'abrogation du Code du travail et pour notamment faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun, autre projet d'Emmanuel Macron, et il appelle d'ailleurs à un référendum sur ces sujets. Et lorsqu'il en a fait part tout à l'heure devant ses militants, il a été acclamé par la foule qui se trouve derrière moi. Comme vous le voyez peut-être, il y a désormais plusieurs centaines de militants, de partisans de Jean-Luc Mélenchon qui sont réunis ici. Et même si on est toujours dans l'attente des résultats définitifs pour ce qui est du score de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'ambiance est déjà extrêmement festive. Alors durant ce discours qu'on évoquait à l'instant de Jean-Luc Mélenchon de tout à l'heure, même s'il est resté extrêmement prudent, il a quand même dit qu'a priori, selon les estimations, il serait largement vainqueur avec près de 60% des voix. Mais si on fait également ici la fête depuis tout à l'heure, c'est parce que effectivement le groupe, le parti, France Insoumise aura, c'est désormais certain, un groupe parlementaire indépendant à l'Assemblée nationale, selon une estimation de nos partenaires Ipsos Sopra Steria. La France Insoumise et le Parti communiste français auraient même quelques 30 députés au Palais Bourbon, 18 peut-être seulement pour la France Insoumise. Parmi ces députés qui ont donc été élus pour sûr ce soir, Alexis Corbière ou encore François Ruffin, des grands noms de la France Insoumise. C'est ce groupe, a dit Jean-Luc Mélenchon, qui mènera le pays à une résistance sociale. Ce sont ses termes. Et donc, je vous le disais, il a beaucoup tapé sur la majorité présidentielle tout à l'heure. Voilà donc ce que l'on peut dire depuis le doc des Suds, ici à Marseille, dans la circonscription donc, dans laquelle s'est présenté Jean-Luc Mélenchon, qui actuellement, je le vois d'ici, se mélange à ses militants. Il échange avec eux. Il a un visage extrêmement ouvert, cordial, optimiste. A priori, sa victoire est assurée dans la 4e circonscription de Marseille.
Merci Achren Verdian. Gérard Filoche, celui qui enfonce le dernier clou peut-être dans le cercueil du Parti Socialiste, c'est Jean-Luc Mélenchon ce soir. Mais comment expliquez-vous son succès, enfin, relatif ce soir, mais succès tout de même, parce qu'il ne, il revient de loin, et l'élimination de la plupart des frondeurs du Parti Socialiste qui portaient à peu près la même idée. Comment expliquez-vous ce paradoxe?
Parce que les camarades de la gauche socialiste ont été emportés par le courant qui légitimement a frappé le Parti Socialiste. Le Parti socialiste paye le prix du quinquennat de François Hollande.
Mais vous lui avez pourri ce quinquennat, François Hollande.
On essaie de le sauver, madame.
Mais la preuve que...
Ne me posez pas la question sans me laisser répondre sur ce point-là, parce qu'il est important. Au début, quand François Hollande a commencé à tourner vers la droite, on a dit,
il y a
une question de redistribution, fais pas la loi Sapin, fais pas la loi El Khomri, fais pas la loi Macron, ne fais pas le CICE. On a été pédagogue. On a essayé loyalement dans notre parti de changer les choses, parce que nous, on est socialistes et on voulait défendre une orientation socialiste. François Hollande ne nous a pas entendus. Manuel Valls ne nous a pas entendus. El Khomri et tous les autres ne nous ont
pas entendus. Mais les électeurs, ce soir, vous ont pas entendus.
Parce que les électeurs, ils n'ont naturellement pas fait une différence. Vous avez remarqué que quand le Parti socialiste perd, toute la gauche perd. Les électeurs, ils ne font pas dans le détail. Et donc, en vérité, nos camarades ont payé le prix de notre loyauté, malgré le combat qu'on a mené, pour essayer de sauver le Parti socialiste du désastre.
Alors, ce soir, vous vous sentez plus proche de Jean-Christophe Cambadélis ou de Jean-Luc Mélenchon?
Je vais vous faire la même réponse, comme toujours. Mon cœur est pour une gauche unie.
Oui.
Donc, quand moi, je voyais un groupe pour France Insoumise, je m'en réjouis. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un groupe aussi socialiste qui, lui-même, se combatte les ordonnances, combatte la politique de Macron et qui ne vote pas la confiance. Et je voudrais bien même qu'il y ait un intergroupe, monsieur. Je voudrais un accord rouge-rose-vert. Je veux reconstruire. Moi-même, je suis gauche, démocrate et sociale. Moi-même, je défends la démocratie et le socialisme. Et je voudrais que mon parti renaisse, pas contre Jean-Luc Mélenchon, ni lui contre nous. Je voudrais qu'on puisse travailler en commun. Madame disait juste là-dessus, parce que c'est sur le fond qui est important, sur le salaire brut. C'est une erreur, madame. Le salaire brut, il est payé par les employeurs aux salariés.
Peut-être pas,
les salariés
mettent, rapidement, mais parce que
mais les salariés
pas forcément le lieu pour se lancer dans un
débat.
Vous
savez, c'est 450 milliards que Macron va essayer de prendre aux
salariés. Un peu technique, sans doute, tout de même.
Oui, mais cette bataille-là, c'est celle qui peut rassembler les deux groupes parlementaires. Celui de Mélenchon et le nôtre. Qui peut faire que la gauche discute et se reconstruise. Qui puisse faire qu'on ait 60 députés qui travaillent ensemble et qui puissent mettre le maximum de bâtons dans les roues à la politique qu'ils vont mener.
Jean-La Lacapelle, un mot tout de même sur Florian Philippot, qui est battu. Est-ce que ce soir, il est fragilisé au sein du parti?
Non, parce qu'il n'est pas, le seul à être battu. Hein.
Nous avions 571 candidats. Le dernier venu non plus au Front
National. Nous avions 571 candidats, donc beaucoup ont été battus. Il semble que nous ayons 8 députés. Nous en avions 2 qui sont fait entendre. C'était Marion Maréchal Le Pen et Collard pendant 5 ans. Nous en avons 8 maintenant. Donc, pas suffisamment pour constituer un groupe. Mais croyez-moi qu'ils se feront entendre. Et je crois que nous aurons une tribune dont nous profiterons pour essayer d'incarner l'opposition sur un certain nombre de sujets, sur les sujets liés à l'immigration notamment massive, sur les sujets liés à l'insécurité, sur les sujets liés à la fiscalité. Il y aura un certain nombre de points sur lesquels, bien évidemment, nous nous ferons entendre. Alors voilà, ensuite certains sont battus. Je fais partie aussi des gens qui ont été battus. Ça fait partie de la vie. Il y a des succès parfois et puis parfois des défaites. C'est pas grave. Il faut savoir vite tourner la page, s'en relever. Je pense que finalement, nous avons une assez bonne nouvelle ce soir. C'est le fait que Marine Le Pen va pouvoir avoir un groupe autour d'elle, même si c'est pas un groupe juridiquement constitué.
Elle sera pas seule.
Elle sera pas seule. Et à 8, ils se feront entendre.
On va aller voir Antoine Mariotti au siège des Républicains. Mais déjà, je vous donne quand même quelques personnalités battues ou réélues. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris a été battue. Jérôme Chartier, l'ex-bras droit de François Fillon, a été battu. Lui aussi, Najat Vallaud-Belkacem a été battue dans la région lyonnaise. Emmanuelle Ménard, la femme de Robert Ménard, a été élu dans l'Hérault, voilà, donc pour le Front National, Marine Le Pen, on l'a dit, a
gagné. On peut ajouter que Nicolas Dupont-Aignan a été réélu aussi dans l'Essonne.
Absolument, donc Louis Alliot, élu, et Collard, vous l'avez dit, est élu. Et François de Rugy a été également élu. Donc on se dirige vers donc le siège des Républicains à Paris avec Antoine Mariotti. Antoine, bonsoir. Que va-t-il se passer dans le fond, dans les jours qui viennent, chez les Républicains? Une mise à plat, bien sûr, va intervenir et elle va être, va-t-elle être sévère, cette mise au point?
Oui, et en tout cas, Roger Carucci nous disait, en tout cas, on va mieux commencer la semaine que ce que l'on craignait. C'est quand même un soulagement ici, puisqu'on s'attendait à une centaine de députés dans le meilleur des scénarios, 60 dans le plus mauvais des scénarios. Finalement, il y en aura visiblement un petit peu plus de 125. Mais il faut voir maintenant, nous disait un élu, s'il y a une volonté commune, eh bien, de travailler, de vivre ensemble au sein du parti Les Républicains. Le patron du parti, le secrétaire général Bernard Accoyer, a lancé un appel à l'unité. Il disait, nous aurions eu plusieurs dizaines centaine d'élus supplémentaires si certains n'avaient pas cédé aux sirènes d'Emmanuel Macron, n'avaient pas cédé aussi à la facilité. Désormais, eh bien, c'est la question de l'identité du parti qui se pose. Il faut rebâtir la droite, disait Carucci. Il faut revenir à nos fondamentaux parce que certes, eh bien, les électeurs, nos électeurs de droite se sont un petit peu réveillés. Ils sont venus ce dimanche, mais s'ils étaient tous venus, eh bien, ce serait François Baroin qui serait à Matignon. Et aujourd'hui, eh bien, on en est loin.
Merci beaucoup Antoine Mariotti.
Frédéric Dumas, on a beaucoup entendu Emmanuel Macron et tous ceux qui sont derrière lui dire on va faire de la politique autrement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous faire la politique autrement? Vous avez une idée précise de la manière dont il va falloir se comporter pour que les choses se passent autrement?
Oui, je pense d'abord, effectivement, la désinformation ou la caricature, c'est déjà un point important, mais c'est surtout la méthode. Parce que moi, juste, je suis une élue UDI à la base, hein, j'étais dans la majorité au conseil régional, et sincèrement, le problème, c'est la méthode. C'est-à-dire que vous parlez des ordonnances, mais Emmanuel Macron, pendant tout l'été, il va faire 48 réunions. C'est de la négociation, c'est du dialogue, c'est accepter d'aller au contact.
Pourquoi il fait des
ordonnances? Accepter.
On va vous donner, vous répondrez dans un instant.
La méthode, c'est d'accepter d'aller au contact, etc. On est beaucoup de la majorité à avoir des expériences qui viennent du privé ou autre, et où on doit construire avec les gens qui sont un peu différents.
Donc c'est vrai que la question pourrait se poser méthode. Avec une majorité quand même confortable. Pourquoi finalement maintient-il l'idée des ordonnances?
Parce que mais en fait, c'est pour deux choses, voilà. Parce que la démocratie, c'est à la fois le dialogue et la négociation, et ça, il va le maintenir. Et la deuxième chose, par contre, passer deux ans ou plus avec les décrets d'application pour faire avancer le pays, ça, il voulait pas. Et il a raison de pas céder là-dessus. Par contre, il maintient la négociation et elle va avoir lieu sur le fond. Vous savez que c'était le ministre qui avait le plus discuté avec les députés pour faire passer sa loi. Donc c'est ça va être cette nouvelle méthode. Voilà.
Mais Gérard Filoche, le fait que la campagne du deuxième tour à gauche, elle s'est faite beaucoup justement sur la dénonciation de la réforme du travail que veut mettre en place Emmanuel Macron. Or, les électeurs ne se sont pas mobilisés. Il a une majorité très confortable. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, les Français, globalement, sont prêts à accepter cette réforme?
Vous avez bien noté qu'il me faut du temps pour vous parler du référendum dans l'entreprise, de la barémisation, du salaire brut. Donc, j'ai eu très peu de débats là-dessus, en fait, monsieur. Vous avez vu cette scène où monsieur Macron sort dans la rue avec madame de Sarnez et monsieur Le Drian, et monsieur Le Drian lui dit mais comment ça s'est passé avec les syndicats, et Macron dit ça s'est bien passé, j'aurais rien dit. Il va y avoir 50 réunions cet été, il va rien leur dire. Et les électeurs n'ont pas été informés de ce qu'il y a, parce que s'ils savaient...
Alors, ils les ont hypnotisés pour l'instant, les leaders syndicaux, parce qu'ils ont l'air plutôt apaisés.
Et vous avez vu qu'il a demandé aux leaders syndicaux de se taire et de ne pas dévoiler. Mais il dit, je ne discute pas.
Ils ne sont pas aux ordres, les leaders syndicaux.
Oui, mais enfin, il leur dit, je ne discute pas avec vous si vous dites ce qu'il y a dans la discussion. Et en même temps, il a annoncé là, il y a quelques jours, que les plans sociaux allaient passer d'un seuil de 10 à un seuil de 30. Ce sont toutes les choses techniques, mais qui déterminent la vie intime de millions de gens. Et ça n'a pas été dans le débat. Alors, évidemment, après, il passe par ordonnance. Mais pourquoi passe-t-il par ordonnance? Parce que s'il a une majorité comme ça, et qu'il est sûr de sa majorité, il peut le faire.
Je pense sincèrement qu'on subit, à mon avis, on va s'en rendre compte, et les Français très, très, très bientôt vont s'en rendre compte, qu'on subit une grande imposture, qui nous a fait un grand show marketing, monsieur Macron. Mais il a été quand même ministre de l'économie pendant sa mandature, enfin pendant deux années au ministère, 380 000 chômeurs supplémentaires. Sous Hollande, pendant 5 ans, 1 100 000. Et ça, ce n'est pas des informations, ça, c'est de l'information officielle qui provient du ministère de l'économie. Moi, je ne crois pas en ces hommes qui ont eu un moment le pouvoir, qui ont eu tous les pouvoirs d'ailleurs, hein, puisqu'ils avaient l'Assemblée nationale aussi, pour pouvoir changer les choses et qui n'ont rien fait. Je crois que les Français vont s'en rendre compte très bientôt. Il y a un effet de pub, un peu un effet chaud, qui a fonctionné. Les Français, certains sont tombés dans le panneau, pas tous, pas ceux qui ont voté Marine Le Pen, notamment lors de l'élection présidentielle, mais rapidement, les Français seront déçus, vous le verrez, et ça ne durera pas longtemps, l'état de grâce.
Il ne reste peu le temps. Peut-être un résultat qui concerne la ministre Marielle de Sarnez, qui est donc élue à Paris. Et une déclaration de Manuel Valls ce soir, je veux être utile à la réussite du quinquennat Macron. Frédéric Dumas, est-ce qu'il est bienvenu à La République En Marche? Est-ce que vous croyez que Emmanuel Macron va ouvrir grand les portes pour Manuel Valls? Il lui a fait ce cadeau de ne pas lui mettre un adversaire, mais est-ce qu'il ira jusqu'à l'accueillir dans sa majorité?
Je trouve que c'est tellement pas le sujet, parce que franchement, on ne peut pas réformer le pays, que Manuel Valls vienne ou pas. Donc il y a des choses beaucoup plus importantes, et Et donc, je laisserai Emmanuel Macron ou le Premier ministre. Mais je pense que c'est vraiment pas le sujet ce soir. Et je voulais juste dire que, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, en tout cas, Emmanuel Macron a promis, et en général, il fait ce qu'il dit, d'instaurer un peu de proportionnel pour pouvoir effectivement avoir une démocratie plus forte. Et je pense que, après l'avoir dit, il le fera, la différence de tous ceux qui l'ont dit, qui l'ont pas
fait. Ça n'est pas le sujet, Manuel Valls. C'est pas n'importe qui. C'est un ancien Premier ministre.
Mais
parce que c'est quoi? C'est la vieille politique, c'est les arrangements, ou alors c'est parce que définitivement il est indésirable, et finalement un peu partout. Si on entend bien, Gérard Philos n'en veut plus. Et chez Emmanuel Macron, on n'en voudrait pas non plus.
Excusez-moi, ce que je disais n'était pas sur Manuel Valls personnellement. Je dis, ce n'est pas le sujet de la soirée, sincèrement.
Il a déjà été traité un peu rudement au moment des investitures.
Non, il n'a pas été traité rudement.
Il ne remplit pas les conditions pour être investi.
Non, sincèrement, il n'a pas été traité rudement. Il n'a effectivement, tout le monde avait rempli les conditions. Il ne l'a pas fait. Il l'a fait médiatiquement pour pouvoir, justement, à mon avis, provoquer ça. Voilà. Après, je veux dire, on a fait
une dérogation.
Voilà. Donc, c'est pas le sujet.
Est-ce que Manuel Valls a vocation, en fond, à aller à travailler avec Emmanuel Macron, puisque le parti socialiste
genre accueillez-moi pour le moment, il a été accueilli nulle part. Il a eu cette petite faveur, La République en marche ne lui a pas mis un candidat contre lui. Là, il est élu tout juste, et pour le moment et peut-être le 27 juin, date de rentrée de la 15e législature, il sera sans doute sur le banc des non inscrits. L'histoire sera peut-être différente ensuite, mais pour le moment, il sera pro-Macron sur le banc des non-inscrits.
Gérard Féluch, il ne reste plus qu'une minute, très vite. Est-ce que vous pensez que Manuel Valls a toute sa place auprès d'Emmanuel Macron?
Je vous redis, madame, que le groupe parlementaire socialiste se constituera notamment sur une prise de position, c'est le refus de voter la confiance à Emmanuel Macron.
Oui, ça, on verra après le Bureau national mardi prochain.
Oui, mais c'est dans nos gènes, madame. Si le Parti socialiste...
Non, ça, c'est votre souhait.
Non. Si le Parti socialiste fait ça, il est mort.
Oui.
La question de la survie et de la construction,
c'est
le combat contre Macron.
Voilà.
On ne peut pas être entre deux chaises, on ne peut pas être côté souris et côté oiseau.
Voilà.
Et donc il faut effectivement choisir de combattre la droite qui est maintenant toute puissante au pouvoir.
Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest pourtant.
Oui, mais la finance, elle prend tout partout. C'est une pillarde.
Une boutade, parce qu'en plus nous arrivons au terme de cette émission.
Merci.
Je crois qu'on peut même dire que c'est terminé.
Merci beaucoup Frédéric Rivière, merci Véronique Rigolet, et merci à tous nos envoyés spéciaux et à toute l'équipe technique. Merci à vous. À bientôt.
C'est la fin de cette édition spéciale entre France 24 et RFI. Dans 3 minutes, le journal sur Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez. On reviendra bien sûr dans ce journal sur le résultat des élections législatives. Je vous donne les dernières estimations. La République En Marche remporte largement la majorité avec 361 sièges environ. Les Républicains et surtout le PS sont loin derrière. Mais comme au premier tour, le grand vainqueur de ces législatives, c'est bien l'abstention. Elle atteint 56,6%. Reportage à Paris, Stéphane Lagarde et Boris Vichit.
Je suis rentré dans le bureau, il y avait une personne en train de voter et moi. Déjà au premier tour, on n'était pas beaucoup, mais là, deuxième tour, personne ne vote, vraiment personne.
Solitude dans les urnes, des taux de participation inversement proportionnels aux températures, ce jeune électeur du 13e arrondissement de Paris s'est senti un peu seul à la sortie de l'isoloir ce dimanche. Même constat à la mi-journée pour Charlotte de Mailly, présidente du bureau de vote de la rue de la Saïda, dans le 15e arrondissement de la capitale.
À voter.
Tenez, bonne journée, madame.
C'est beaucoup plus calme que le week-end dernier, par exemple, que dimanche dernier. À cette heure-ci, il y avait un peu plus de monde, jusqu'à 1h30, ça bougeait. Et là, c'est vraiment au coup par coup, et voilà.
Vivez le second tour des élections législatives françaises avec RFI.
Donc un niveau record de 57%, vraisemblablement, pour ce qui est de l'abstention.
À peine plus d'un électeur sur trois qui se déplace pour aller voter, un record le plus bas dans l'histoire de la 5e République, selon les plus âgés.
Je suis de retraité d'éducation nationale, je suis senior, j'ai 78 ans.
Vous avez voté ?
Oui, monsieur. J'ai été très surprise parce que j'ai rencontré des gens de mon âge, mais aucun jeune. Vous savez, je vais vous dire, le canard enchaîné m'a été prêté par un de mes fils. Je lui ai dit aujourd'hui, tu vois, il ne faut pas voter après avoir lu le canard enchaîné. C'est décourageant.
Cette retraitée qui prend l'ombre avec son journal dans un parc de la capitale n'a pas supporté le climat des affaires qui a plombé la campagne. Plus au sud du périphérique parisien, un match de foot a attendu la fin de l'après-midi en raison des fortes chaleurs. Et là encore, carton rouge, les jeunes dans les gradins ne se sentent absolument pas concernés par les élections.
J'ai pas voté, non.
Vous allez voter ?
Point d'interrogation, je sais pas, si j'ai le temps peut-être, et encore.
Pourquoi ?
Franchement, on se sent pas trop concerné. Actuellement, je me sens pas représenté.
De toute façon, j'aurais pas voté parce que j'ai pas suivi, donc je vote pas comme ça. Moi. Ça sert à rien, en fait. Moi, je pense que la jeunesse, elle s'est plus focalisée sur les présidentielles que sur les législatives, au fait. Parce qu'on s'est plus senti concerné sur les présidentielles que pour les législatives, parce que je pense que la plupart, ils savent pas ce que c'est, au fait. Moi, y compris. Hein.
Trop compliqué, les législatives pour la jeunesse. À deux pas du stade, Émilie Hubin, une jeune Belge de 32 ans, se promène avec sa fille. Dans son pays, dit-elle, la question de la participation ne se pose pas.
Bah nous, le droit de vote en Belgique, il est obligatoire, donc c'est la queue pour aller voter, sinon on a une amende.
Des amendes pour les abstentionnistes, certains en France y songent et souhaiteraient que le vote soit rendu obligatoire. Boris Vichit, Stéphane Lagarde, dans le sud de Paris, RFI.
Restez avec nous dans quelques secondes, un nouveau journal sur la Radio France Internet.